Bienvenue dans ce troisième épisode d'Histoire de Préma. Tout d'abord, cela fait un moment qu'il n'y a pas eu de nouvel épisode. Ma mère nous a quittés début décembre et j'ai mis mes activités en pause pour pouvoir faire face au deuil avec ma famille et mes proches. Le podcast a donc aussi été mis en pause pendant quelques temps. Mais aujourd'hui, il est de retour et je vous invite à découvrir l'histoire de Phileas, né à 34 semaines, comme lui l'a conté Ophélie sa maman. Une naissance après un très long allaitement et des mois d'hospitalisation. Et en deuxième partie d'épisode, on retrouve un entretien avec Estelle Guibert, infirmière puéricultrice en néonat à Avignon et surtout auteur du livre « Cœur à cœur », un très joli abécédaire autour de la prématurité et des différentes étapes de l'hospitalisation d'un bébé préma. Je voudrais aussi vous parler d'une pétition, une pétition importante pour sauver la réanimation pédiatrique. Une pétition lancée il y a quelques semaines de cela par Pauline Lavaux et Saïd Ben Moufouk, parents d'Elias, Julia et Maxime Ehalé, parents de Joshua et Marlo, Céline Locatelli et Ludivic Rose, parents de Nao, Marion Venturi et Benjamin Lance, parents d'Aubin. Donc cette pétition est en ligne sur change.org. Il s'agit d'un appel des parents à sauver la réanimation néonatale et pédiatrique. Des récentes enquêtes journalistiques ont donc mis en lumière l'état alarmant des services, notamment en Île-de-France, où des lits se ferment un peu partout. Et vous vous en doutez, c'est une urgence vitale, c'est une question de vie ou de mort pour certains enfants, pour beaucoup d'enfants. Et donc cette pétition est en ligne, elle a déjà plusieurs dizaines de milliers de signataires, mais je vous invite fortement à aller la signer. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode et sur le site. Vous pouvez aussi le retrouver par exemple sur le compte Instagram de Julia et Max, donc Julia et Max tout simplement. Et donc je vous invite vraiment à aller signer cette pétition pour sauver Céline, pour sauver ses services et donc ses vies. Car là, avec l'hiver et les épidémies hivernales, il manque des infirmiers, il manque des lits à l'hôpital Trousseau. Et si rien n'est fait, d'autres lits seront encore fermés. Et donc je vous invite à aller la signer, c'est une pétition très importante. Je vous en remercie d'avance. Et maintenant... voici l'histoire de Phileas. En couple depuis 18 ans, nous voilà pris par un nouveau fort désir d'enfant. Déjà parents de deux garçons, on se demande si c'est bien raisonnable, mais l'envie est trop forte. Il met un peu plus de temps à s'installer que les deux premiers, une dizaine de mois. On l'attend impatiemment, fébrilement. Et puis le 2 mars, test positif, un nouveau miracle est en route. Comme pour les deux premiers, le début de grossesse est serein. Je suis quand même très malade au premier trimestre, j'ai du mal à manger. Mon fils aîné repère un changement et s'inquiète. On l'annonce donc avec une forte émotion. La première écho est parfaite. On touche du doigt la fin du premier trimestre, c'est le bonheur absolu. Le 7 mai, on revient de l'anniversaire. J'ai eu pas mal de contractions ce soir-là et je me sens fatiguée. En me mettant en pyjama, je me rends compte que je perds du sang. Panique à bord, j'appelle les urgences gynécologiques. On est samedi soir, ils me disent qu'à mon terme, il n'y a pas grand-chose à faire et qu'il faut revenir le lendemain. Nuit d'angoisse. Le lendemain, on réveille, ça recommence. On part à la clinique où on me parle d'un décollement. Je suis alors en arrêt 3-4 jours avec du repos, rien d'alarmant. Le jour de la reprise, de nouveaux saignements hémorragiques, de nouveaux retours aux urgences. Cette fois, on me parle d'un hématome. Je suis arrêté 15 jours au repos absolu. On me dit que ça va se résorber. Je suis à 2 mois et 3 semaines de grossesse et je vais être alité durant 5 mois. 5 mois où je vais alterner entre alitement chez moi et hospitalisation. 2 mois d'hospitalisation en tout. Le relais familial se met alors en place pour gérer mes grands, mon homme assure. Je passe des moments d'accalmie à des moments d'angoisse massif où j'ai des hémorragies importantes qui provoquent des contractions et qui menacent d'un accouchement prématuré, voire fatal. L'hématome ne se résorbe pas. Il mesure à un moment jusqu'à 10 cm sur 4. Les médecins n'ont aucune explication. Le 4 octobre, de nouveau hémorragie. La sage-femme qui me suit à domicile me dit de filer une nouvelle fois aux urgences. Je préviens mon mari qui rentre pour s'occuper des grands. J'appelle mes parents pour leur dire que je vais sûrement être hospitalisée. Arrivé aux urgences, les contractions sont là, en plus des saignements. Le monitoring est posé. On m'informe qu'on va me donner de l'adalate, un comprimé qui sert à les arrêter, et me garder quelques jours en hospitalisation car ce serait bien que je tienne jusqu'à 37 semaines d'aménorrhée. Puis, au bout de 10 minutes de monitoring, on m'informe que le bébé montre des signes de souffrance fœtale. On va me faire une césarienne en urgence, et une demi-heure après, je suis au bloc. Je m'effondre. Tout l'optimisme que j'ai tenté de garder pendant ces mois m'échappe. Je vais accoucher en urgence, seule, trop tôt. J'appelle mon mari, je ne veux pas l'inquiéter. J'essaie de lui dire calmement ce qui se passe. Il m'informe que mes parents ont pris l'initiative de venir à la maison. Il peut être là dans 15 minutes. Je m'effondre encore. Il va être là, je ne vais pas être seule. La péridurale se passe bien. Les équipes sont hyper bienveillantes. Moi, je suis terrifiée. Je demande si je pourrais voir mon bébé, s'il sera transféré au service néonat de l'hôpital pédiatrique, car j'accouche dans une clinique de niveau 2. Pas de service pour les grands primats. On me dit qu'on ne sait pas, que ça dépendra de comment il sera quand il sortira. La péri est bien posée, je ne ressens rien. Mon mari est là, près de moi. C'est long et silencieux. On ne nous explique rien. De longues minutes. Puis on nous dit qu'il est là. Il pleure, un peu englué. Il est tout petit, bleu. On me le présente rapidement, puis il l'emmène tout de suite. Avec mon mari, on se connaît. On ne se parle pas. On attend. En un regard, on se soutient sans mots. Mon gynéco me dit que l'hémorragie est contenue. Tout va bien pour moi. Quelques minutes plus tard, une puéricultrice rentre et nous demande comment s'appelle notre fils. On nous annonce qu'il va bien. Il respire tout seul, ses réflexes sont bons. Il a juste besoin d'aide pour manger et pour réguler sa température. Mon mari va le retrouver. De mon côté, la sortie d'anesthésie est difficile. Je réagis mal à la morphine. Et mon mari m'a raconté plus tard que j'ai rencontré Phileas pour la première fois ce soir-là, mais je m'en rappelle pas. J'étais shootée. J'ai passé la nuit à vomir. Pour moi, la rencontre a eu lieu le lendemain. Si émouvant, si beau, si serein. Un moment suspendu. Mon tout petit garçon de 2,1 kg pour 45 cm dans sa couveuse, avec ses électrodes partout, son tuyau dans le nez. Sur le moment, j'ai vécu cet accouchement comme une délivrance, après tous ces mois d'angoisse, mais finalement en le voyant dans sa couveuse si fragile, si isolée, si petit, avec ses alarmes qui sonnent constamment, l'angoisse finalement est réapparue très vite. Pour les grands, après les mois d'hospitalisation et les mois d'allaitement, l'accouchement en urgence est aussi compliqué. On leur avait dit qu'une fois que le bébé serait sorti, tout irait mieux. Mais là, il est sorti et je reste encore à l'hôpital et ils ne peuvent pas rencontrer leur petit frère. Ils le voient à travers une vitre avec des persiennes, donc autant dire très peu. J'essaie de camoufler mes émotions, mais je les cache mal et déborde. Et pourtant, ils restent costauds. Ils ont fait des dessins pour décorer la couveuse et souhaiter bienvenue à leur petit frère. Ils sont impressionnés, émus face à lui. Pendant des mois, mon deuxième sera toujours très touché en le voyant. Il répétera souvent « Il est trop mignon notre petit frère, tu l'as trop bien réussi maman !» Malgré nos inquiétudes, Phileas va bien. Il n'a besoin d'aucune assistante respiratoire. Ses constances sont stables. Un petit costaud lui aussi. Je souhaite l'allaiter. Je cumule la douleur de la césarienne et la douleur de la montée du lait géré au tire-lait. Je pense heureusement que c'était mon troisième et que je connaissais très bien les enjeux de la montée de lait, sinon je n'aurais jamais pu tenir. Douloureuse, fatiguée, stressée, j'imprime un bouton de fièvre. Me voilà dans l'obligation de porter un masque continuellement et d'être hyper vigilante quand je tire mon lait, car l'équipe médicale m'alerte sur les dangers des boutons de fièvre sur les nourrissons. Interdit de bisous pendant 15 jours. Phileas est très calme, il dort tout le temps. Il est alimenté par sonde toutes les 2 heures par mon lait. Je veille à l'avoir sûrement en peau à peau à chaque repas, afin qu'il associe le repas à ma présence. On essaie de le stimuler pour qu'il prenne le sein, mais il n'y arrive pas. Il se fatigue vite. Tous les autres examens de santé sont bons, il va bien. Phileas est sorti de la couveuse au bout de 8 jours. Il a pu réguler sa température tout seul, comme un grand. Première grosse étape. On a enfin pu l'habiller, le pouponner. Les garçons ont pu le voir d'un peu plus près. À 12 jours, Phileas fait une première vraie tétée. Quel merveilleux moment, l'émotion m'envahit. L'équipe prévenante et bienveillante me prévient. Il se peut que cette super tétée l'ait fatigué et qu'il dorme un long moment ensuite. Finalement, il se réveille et tète à nouveau. 24 heures qu'il ne se nourrit que de mon sein. On me prévient encore qu'il peut avoir perdu du poids. Mais non, il a juste stagné. Bonne nouvelle. Il est décidé qu'il vienne avec moi dans la chambre. J'ai le trac, mais je suis confiante. Nous nous retrouvons en tête à tête, enfin. Mon bébé avec moi. Je dois tout noter sur une feuille. Les heures de tétée, la durée, les selles, les urines. Nous voilà pour 24 heures dans la chambre, lui et moi. La nuit se passe bien. Il fait tout bien comme il faut, mon petit bébé magique, pour remplir les cases. Le lendemain, à la visite médicale, il a pris du poids. Les feux sont ouverts. On rentre chez nous. La joie est immense, le vertige aussi. On va passer de l'aseptisation et l'hyperprotection du service des néonates à la maison avec deux grands garçons scolarisés qui ramènent des microbes tout le temps. Les consignes sont strictes. Mon bébé est fragilisé par sa prématurité. C'est un bébé d'hiver. Il faut être vigilant sous peine de retourner en néonate. Notre vie à 5 est merveilleuse. Nous n'avons eu aucun souci avec Phileas depuis notre retour à la maison. Il vit et grandit comme un enfant ordinaire et nos angoisses se sont apaisées jour après jour. Les grands ont été, je crois, un peu intimidés par ce si mignon petit frère un peu fragile, mais ils sont attentionnés. Chacun a trouvé sa place. Je voulais profiter de ce témoignage pour dire toute mon admiration envers les professionnels qui m'ont accompagné tous ces mois durant ma grossesse jusqu'en néonate. Des équipes compétentes, bienveillantes, patientes, claires et parfois émues aussi avec nous. Que de belles rencontres. Un grand merci à Ophélie, la mère de Phileas, d'avoir partagé leur histoire avec nous. Pour la deuxième partie de cet épisode, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Estelle Glibert, infirmière puéricultrice à Avignon, mais surtout auteure du livre Cœur à cœur, un joli abécédaire destiné aux parents prématurés et aux prématurés, qui retrace l'histoire de leur hospitalisation pas à pas. Nous avons évoqué la lecture comme moyen de créer des liens entre les parents et les enfants, le concept de parents guerriers, le soutien des proches aux parents prématurés, mais aussi la mise en place de moyens dans les hôpitaux. Bonjour Estelle, donc merci encore de m'accorder un peu de temps pour parler de ton livre et de la prématurité en même temps.
Oui, avec plaisir.
Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours ?
Moi je suis Estelle, je suis puéricultrice. Cette année, ça fait 11 ans que je travaille en néonatologie à l'hôpital d'Avignon.
Ah oui.
J'ai eu mon diplôme à Nîmes, à l'école de Nîmes. Et puis avant, j'ai travaillé un petit peu à Bordeaux, aux urgences et en réanimation pédiatrique. Et voilà, depuis que je suis arrivée à Avignon, Je n'ai plus bougé parce que j'adore ce service. Et donc, pour l'instant, je suis bien là.
D'accord. Et donc, Estelle a écrit Cœur à cœur, donc un abécédaire qui retrace le parcours d'un enfant de la naissance à la fin de l'hospitalisation au retour à la maison d'un prématuré, d'un petit, ou d'une petite prématurée.
Oui.
Ce livre, alors, il est destiné aux parents qui viennent d'avoir des prématurés ou aussi à d'autres personnes qui veulent en savoir plus ?
En fait, j'ai écrit ce livre vraiment pour que les parents puissent lire à leur bébé comme une première histoire qu'on peut lire à son bébé. Où en fait, quand on est en néonate, on n'a pas la tête trop à lire des histoires. On est vraiment obnubilé par les machines, par l'état de santé de son enfant. Et on en a presque de leur parler. Enfin, moi, c'est ce que je vis au quotidien, c'est que les parents, en fait, parlent très peu à leur bébé. Et moi, en fait, quand je suis devenue maman, j'ai commencé à lire beaucoup d'histoires à mes petites filles. Et je me suis dit que, en fait, c'était une richesse et qu'il fallait commencer le plus tôt possible, que les histoires créent du lien. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai eu l'idée d'écrire ce livre.
D'accord, c'est vrai, ça me parle beaucoup le fait qu'on ne parle pas beaucoup au bébé. Chaque ma fille, quand elle était dans sa petite couveuse, les infirmières me disaient justement de lui parler ou de lui lire des livres. Mmh. Et à l'époque, je lui avais lu, je me rappelle, Le Petit Prince. Ouais, et depuis le livre, il est tellement resté marqué pour moi, néonate, machine et tout, que depuis qu'elle est sortie, j'arrive même pas à le rouvrir au fait. C'est assez, mon rapport avec ce livre a bizarrement changé. J'ai du mal à. Genre, il est dans sa chambre, il est toujours là, mais j'arrive plus à le lire.
Puis c'est super émouvant aussi comme histoire.
J'arrive pas à le séparer des bips et des sons et tout le tralala.
Mais en fait, c'est un peu ça en fait que j'ai voulu faire avec ce livre. J'ai voulu faire vraiment un bel objet que les parents ont plaisir à garder et pour qu'ils se souviennent aussi par quoi ils sont passés et qu'ils ont réussi à surmonter ça ensemble. Oui. Par enfant et que ça fasse vraiment un souvenir positif.
C'est vrai qu'on que ma fille encore, je lui remonte des photos. Donc, je disais, voilà, quand tu es née, tu as été malade, tu as été... Mais j'ai du mal à trouver les mots, à lui expliquer. C'est vite, du coup, dans la vestibulaire, quelques mots, voilà, les mots clés qui reviennent, qu'on a peut-être peur de dire aux enfants, je ne sais pas, qui sont joliment illustrés, qui apportent un peu de douceur à tout ça.
Ouais, c'est ce que j'ai voulu faire.
C'est... Le but est bien trouvé, alors.
C'est gentil.
Et c'est vrai que donc on parlait de créer le lien donc entre les parents et bébés, donc via la lecture notamment. Je crois qu'il y a pas de... Est-ce que vous êtes vraiment formé à traiter avec les parents, on va dire?
Pas beaucoup. En
Oui.
fait, on apprend vraiment sur le tas. Moi, je sais, quand je suis arrivée en néonat, j'arrivais pas non plus à parler aux parents. Hein. Je leur montrais des soins, je leur faisais faire des soins, je mettais les enfants dans les bras et en fait, je leur disais juste ça va. Et j'étais super gênée parce que je savais pas quoi leur dire non plus. Et c'est vraiment au fur et à mesure que j'ai pris conscience en fait que cette relation était difficile à tisser aussi avec leur bébé et que j'ai vu en fait que mon rôle était vraiment de les aider là-dedans. Et c'est au fur et à mesure des années en fait que j'ai été de plus en plus à l'aise et que maintenant enfin, c'est le cœur de mon travail, c'est vraiment ça, c'est m'occuper des parents pour qu'ils soient le plus à l'aise avec leur bébé. Et ouais, ça s'est vraiment tissé au fur et à mesure des années. Hein.
Oui. D'ailleurs, j'ai réécouté une de tes interventions, je crois que c'était à France Bleu Vaucluse, si je ne me trompe pas, en
Ouais.
novembre dernier,
Ouais.
où tu ne parlais pas de... Parce qu'on attend, voilà, on a tendance à dire nos enfants sont des guerriers, mais toi, tu parles plutôt de parents guerriers.
Ouais, ben oui, parce que ben moi, en fait, que je vois souvent les bébés, c'est pas des guerriers pour moi. Pour moi, les bébés, ça reste toujours des bébés. Ils se battent pour vivre, je sais pas. Ils sont là, ils font le maximum, ils font leur petit chemin tranquille. Et ouais, pour moi, c'est vraiment les parents, quoi, qui sont là, qui vont tous les jours, la même routine, qui voient que ça avance pas, mais ils tiennent, ils essayent de garder le cap là, et que c'est difficile vraiment pour eux. C'est une guerre vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment eux qui mènent le combat contre tout ça pour rentrer à la maison.
Oui, c'est une période, oui, pas très facile. C'est pas vraiment ce
Ben
qu'on
oui.
imaginait. Et comme tu disais encore dans cette intervention, la plupart du temps, la prématurité, c'est pas préparé. On ne
Mais
s'y
oui.
attend pas du tout. Ça arrive en une heure, en une journée. Et on se retrouve avec un bébé, pas... La plupart du temps, la chambre, elle n'est pas faite, déjà.
Oui.
Parce que c'était pas comme ça que c'était censé se passer.
C'est
Voilà.
inattendu.
Qu'est-ce que tu préconiserais pour aider les parents, déjà au plus au niveau dans l'accueil dans les services de néonates?
Ben, le cœur
Oui.
du problème, je pense que c'est de favoriser la présence des parents et que malgré tout ce qu'on peut faire, des fois les parents ont du mal à venir. Ben, des fois il y a des contraintes matérielles et puis des fois c'est vraiment de voir cet enfant dans la couveuse qui les bouleverse tellement que c'est difficile, ils se sentent pas capables parce que les soins, tout a l'air si compliqué, même changer une couche, ça a l'air compliqué. Enfin, et alors que juste les prendre contre eux, c'est faire du pot à pot, c'est le meilleur des soins. Enfin, on le voit au quotidien, les enfants qui sont dans les bras des parents, qui sont portés plusieurs heures par jour, ils évoluent plus vite, ils tètent mieux, ils respirent mieux tout seuls, plus vite, ils se développent mieux. Et il y a vraiment ce lien très fort qui se crée. Et ça, faire du pot à pot et pourquoi pas lire des histoires à son bébé, je pense que c'est vraiment le soin qu'on peut le plus encourager. Et voilà, et c'est ce qu'on essaye de dire au quotidien, de dire, bon, ben, les trucs qui vous paraissent compliqués, on les met de côté. Et ce qu'il faut, c'est juste garder votre bébé contre vous et profiter du temps ensemble.
Oui. Et qu'est-ce que tu conseillerais aux proches, aux grands-parents, aux oncles, tantes et amis qui, la plupart du temps, c'est ça que je reçois parfois des messages de personnes qui me disent, oui, j'ai tel ami qui vient d'avoir un petit prématuré, je ne sais pas quoi faire,
Ouais.
je ne sais pas comment l'aider. C'est vrai que les
Ben.
proches ne savent pas trop comment aborder le sujet, certains n'osent pas faire de cadeau de naissance, par
Ouais.
exemple, ce genre de choses.
Ben, je pense que justement, il faut aider les parents à investir ce bébé et à se dire qu'ils vont effectivement le ramener à la maison. Et oui, il faut leur acheter des choses, il faut se dire, tiens, mais ça, tu mettras dans sa chambre plus tard, ça, tu pourras lui mettre cet hiver-là, quand il fera froid. Et ça aide le parent à se dire, oui, il va y arriver et on va rentrer ensemble. Je pense vraiment que c'est hyper important pour les parents de sentir que cet enfant, il fait déjà partie de la famille et que même s'il est à l'hôpital et qu'il ne va pas rentrer de suite, il fait partie de cette famille et qu'il est investi tout de suite. Je pense que c'est
Mais
important.
pour venir à cœur à cœur, la lettre Z, donc il y a la dernière lettre du livre, donc de l'ABCDR, c'est Z. Il n'est pas spécialement zen ce retour à la maison. Moi, je me souviens, si je pouvais appeler les Z, qu'est-ce que ça veut dire? Il s'est passé ça, qu'est-ce que ça veut dire? J'avais beaucoup plus peur une fois rentré à la maison qu'à l'hôpital.
Ouais. Ben, c'est un peu le paradoxe, hein. C'est pour ça que j'ai
Oui.
mis. En fait, c'est une deuxième tempête qui arrive, le retour à la maison, enfin, à la maison, excusez. Je pense, c'est que tout cet étayage qu'on avait par les soignants, tout ça, ça s'arrête, à part un petit peu la sage-femme qui vient, la puéricultrice du PMI qui vient, mais là, vraiment, les parents vivent ce que les parents d'enfants à terme vivent, c'est-à-dire le retour à la maison, trouver son rythme, il pleure, pourquoi il pleure, qu'est-ce que je peux faire, être complètement débordé par la lessive, le ménage, les courses, plus s'occuper du bébé, et plus s'occuper d'un bébé quand c'est fragile, quand c'est qu'il ne doit pas être en contact avec des gens qui sont malades, qu'il ne faut pas trop faire de réunions de famille pour préserver au plus possible, voilà, qu'il évite surtout l'hiver la bronchiolite, tout ça. C'est vraiment une inquiétude parce qu'un petit pépin de santé et le bébé, c'est retour en néonate. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, obnubile les parents. Et du coup, voilà, j'ai mis zen pour dire que finalement, ça va bien se passer, mais je sais que c'est pas zen du tout. Bon, voilà, c'est l'idée aussi de toujours dire quelque chose de positif parce que, évidemment,
Exactement.
à la sortie, on dit bon, mais bon courage, hein. Non, c'est pas bon courage, c'est profiter, c'est le début de la vie en famille, c'est précieux et c'est que du bonheur en fait.
Oui. Avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur. Mais
Mais ça n'empêche pas.
j'en garde encore des traumatismes. Et du coup, tu dirais au quotidien, qu'est-ce qui est le plus dur dans ton travail?
Le plus dur, je pense, c'est d'accompagner des parents ben, dont on sait que l'enfant ne va pas survivre. Hein, donc, nous, à Avignon, on est à un niveau 2B. Donc, en fait, quand les prémas vont vraiment très mal, qui doivent être intubés, sédatés longtemps, on les mute, ils vont à Marseille ou à Nîmes ou à Montpellier, le plus près de chez nous. Mais on a quand même des décès d'enfants et des enfants qui ont des anomalies, soit l'ETF, soit des entérocolites, des choses qui mettent vraiment le pronostic vital, voilà, qui engage. Et en fait, c'est difficile d'accompagner ces parents-là parce que nous, on voit l'urgence médicale, l'urgence vitale. Et eux, en fait, des fois, il y a un gros décalage. Ils ne se rendent pas du tout compte. Et on ne peut pas leur dire que ça va se précipiter et que ça va se finir bientôt. Et des fois, il y a des situations, ouais, qui sont super, super difficiles. Mais voilà, moi, c'est vraiment. Bon, voilà, c'est partie de mon travail, mais c'est dur, c'est dur.
Et en 11 ans, je suppose qu'il y a eu énormément de ce genre de cas plutôt dur. C'est pas trop dur de tenir, de garder la motivation.
Ben après, moi, dans les parents, les parcours que j'ai suivis, c'est des parents qui ont ensuite eu d'autres enfants ou qui nous tiennent au courant. Donc, c'est vraiment beaucoup plus positif, se dire que malgré tout, ben, cette famille s'en est sortie. Et c'est toujours la peine et le chagrin, mais c'est quand même du positif parce qu'ils ont des enfants qui vont bien. Mais bon, voilà, le gros de mon travail, c'est quand même des enfants qui vont bien, en fait, et qui rentrent à la maison et qui n'ont pas de problème. Les prématurés, maintenant, sont bien suivis. Et la plupart du temps, ils vont très bien. On ne reconnaît pas du tout un enfant prématuré à 1 an d'un enfant qui est né à terme, en fait. Hein.
Ouais.
C'est incroyable et en même temps, c'est magique, c'est génial parce qu'on ne s'en douterait pas.
Oui, les progrès de la médecine.
Oui, C'est ça.
Je pense qu'il y a, ben, du coup, il y a 10 ans, ça se passait différemment, je pense, niveau accueil des parents comparé à maintenant.
Ah oui, ben, nous, il y a 10 ans, on n'avait pas de salle des parents, donc ils étaient obligés de sortir du service pour manger. Enfin, on n'avait rien sur place de détente. On a une salle vraiment où on peut accueillir un peu la fratrie. Si voilà, ils restent 5 minutes dans la chambre, ils sont un peu trop excités, tout ça, ils peuvent aller faire des coloriages, tout ça, dans la salle des parents. Donc, on a vraiment mis en place des choses, l'accueil des parents aussi, bon, sauf en hiver parce que là on est en service fermé parce que c'est épidémie de bronchiolite, donc
Oui.
là il n'y a que les parents vraiment qui rentrent. Mais sinon, on accueille vraiment la fratrie. Avant c'était une fois par semaine, enfin, maintenant voilà, s'ils veulent venir tous les jours, ils viennent tous les jours. Je pense qu'on a beaucoup progressé parce que quand on a un enfant à l'hôpital, c'est la famille qu'on doit accueillir forcément. Et ça permet aussi aux parents de se rendre compte que ce bébé fait déjà partie de l'histoire de cette famille.
C'est vrai. C'est vrai que j'ai... Alors là, ma fille, elle était, il y avait... Il n'y avait pas le droit à la famille, vraiment, c'était... Bon, après, ils étaient tous... Pour le coup, c'est hyper stérilisé, il fallait faire attention à plein de choses. Donc oui, on comprend le besoin médical de limiter les allers-retours, ce qu'il y en avait à côté de son box, qui était beaucoup plus mal en point qu'elle. Donc oui, c'est vrai que ça... Mais ça a beaucoup changé quand même, de ce que ma mère me dit ou de ce que j'entends pas les anciens dire.
Progresse.
De l'époque, de la grande époque, il y a 30-40 ans.
Mais oui.
Ça a beaucoup changé. Et en quelle est la suite pour Cœur à Cœur?
Ben, il y a pas trop de suite en fait. Moi, j'ai fait ce livre, voilà, parce que d'abord, ben, ça m'a fait plaisir de le faire. J'en ai vendu quelques-uns, donc je pense que ça a dû aider quelques parents, ça a dû leur faire plaisir de l'acheter pour eux. Après, voilà, j'en ai envoyé dans beaucoup de services, mais malheureusement, j'ai pas trop de retours. Enfin, ceux que j'ai sont toujours très positifs, mais c'est pas très gratifiant au final parce que j'en vois, voilà, c'est mon budget aussi, hein.
Oui.
Donc, il y a un moment où voilà, il faut mettre une limite parce que sinon, c'est pas possible de continuer comme ça. Donc, moi, j'en ai plein en stock. Ils se vendent sur mon site internet. Donc, les gens qui sont intéressés, ils peuvent l'acheter. Souvent, je fais des codes promo pour qu'ils soient moins chers, pour pouvoir
Ouais.
l'envoyer. Voilà, mais voilà, ça fait son petit chemin. Il n'y a pas. Voilà.
C'est un peu aussi le petit cadeau de naissance pour les parents de Prima.
Oui, ben, c'est vrai qu'il y a des gens aussi qui l'achètent pour des familles, parce que je vois l'adresse de facturation et de livraison, c'est pas la même. Alors je me dis,
Oui.
ah, c'est un cadeau. Donc c'est vrai que c'est sympa de voir que ça commence à être une petite attention qu'on fait. Voilà, donc ouais, je suis contente de ça quand même.
Ce serait aussi bien que les autres hôpitaux s'en procurent.
Oui, ben,
Parce que
après.
niveau lecture, on est un peu limité dans les services néonates.
Oui, c'est vrai, mais bon, parce qu'aussi, on n'y pense pas. Moi, dans ma salle des parents, j'ai mis d'autres livres. J'ai mis un livre sur l'allaitement, qui est super bien. L'allaitement du prématuré, c'est une fille, Caroline Guillot, elle a son compte Instagram, c'est Tété en Tété. Enfin, il est
Oui.
super bien ce livre. Et des fois, pour expliquer l'allaitement, nous, on est un peu limité parce qu'on n'a pas été formé il y a longtemps, enfin on a été formé il y a longtemps, tout ça, et en fait je pense que c'est une aide supplémentaire. Après on a le livre de Gaspard, comment ça s'appelle? Pas Gaspard,
Gaspard et Alice.
ouais, comment ça s'appelle?
Oui.
Petit mais costaud,
C'est ça.
voilà, et il est bien aussi, c'est pour expliquer un petit peu la naissance du bébé, ça peut expliquer aussi aux frères aux sœurs. Donc voilà, moi j'ai mis plein, je vais continuer à mettre des livres parce que je trouve que c'est super bien en fait de lire. Donc je vais continuer. Mais
Ben surtout, oui, comme on le disait avant de commencer l'entretien, des livres qui parlent, parce que la plupart en bibliothèque ou je crois à la fin. Il y a 4 ans que ma fille est née, j'ai pas vraiment vu même de livre à la FNAC, je crois, sur le sujet. Mais à la bibliothèque, voilà, c'est plus tout c'est traité médicalement, donc sur les causes, les statistiques et ce genre de truc, c'est pas vraiment ce que j'avais envie de lire à ce moment-là.
Oui, c'est sûr.
Si je cherche un livre sur la prématurité, c'est que c'est déjà passé.
Ouais.
J'ai plus besoin de savoir les causes, c'est déjà arrivé, donc c'est plutôt comment aller de l'avant et aussi avoir. Ben déjà, on n'a pas beaucoup d'avis de personnes qui passent par là.
Ouais.
Les forums internet, j'ai essayé, ça fait plus peur qu'autre chose. Ça met vraiment, vraiment peur. Donc,
Ah
ouais,
mais
il n'y a
oui.
pas beaucoup de témoignages.
Ouais, c'est et puis après surtout c'est ça fait comparer aussi entre son enfant et les autres. Je sais
C'est
pas,
ça.
c'est trop une aide.
Il est très joli en plus ce livre, donc ça fait double effet, ça sort de. C'est pas glauque, voilà. C'est pas le truc que.
Le but c'était vraiment de faire des illustrations qui n'ont rien à voir avec l'hôpital
Oui.
et d'avoir des belles illustrations, des belles images, ça fait imaginer autre chose et ça fait sortir un peu même.
Voilà, du côté médical, de aseptiser et tout,
C'est ça.
tout ce que peut être la néonate.
Oui.
Ben, j'espère que d'autres hôpitaux, d'autres services, se le procureront.
Moi, s'il y a des soignants ou des parents qui veulent l'envoyer là où ils ont été hospitalisés, qui veulent se le procurer pour leur service, ben, vous m'envoyez un message, moi je le fais avec plaisir.
Oui. Ah, je me demandais justement, est-ce que la formation, ben, donc d'infirmière puéricultrice, que j'ai appris, c'était quelque chose de différent d'infirmière, d'infirmière puéricultrice est différente maintenant parce qu'avec tout ce qu'on sait maintenant sur je sais pas, les sciences cognitives ou tout ce que les avancées de la médecine, qu'est-ce qui a vraiment changé en 10 ans dans la formation autour de l'allaitement, autour du suivi psychologique et autres?
Ouais, bah ça, en fait, je peux pas trop répondre parce que moi, quand j'ai fait mon école, mais en fait, je me dis que tout ce qu'on nous apprend, au final, on apprend vraiment sur le terrain. J'espère que ça a évolué. Après, maintenant, c'est sûr que ce qu'on parle maintenant des violences éducatives ordinaires, c'est un programme vraiment du gouvernement, les 1000 premiers jours de l'enfant, tout ça, je pense que ça va bouger les choses. J'espère, oui, en effet, que dans la formation, ça est abordé. Mais en effet, j'en sais rien du tout. Il faudra que je demande à un étudiant dans le service.
Et parce qu'il se passe beaucoup de choses. Ben normalement, il y a une pétition qui circule en ce moment pour lutter contre la fermeture des réanimations pédiatriques. Et je crois qu'ils sont à 75 000 signatures maintenant. C'est vrai qu'il y a
Ouais.
aussi, je crois qu'il y a un problème de manque de moyens dans certains hôpitaux ou dans
Oui,
tous les hôpitaux.
ben,
Je ne sais pas vraiment si la situation est généralisée ou pas. À Avignon, vous en sortez plutôt pas mal.
oui. Bah après, c'est sûr qu'en province, on est toujours moins touché. Mais bon, voilà, cette année, on a quand même fermé 3 lits et on a supprimé 2 postes. Donc, je pense que dans tous les services, au final, on subit les réductions de personnel et que on va devoir faire autant, voire plus, avec moins.
Oui.
Et bon, jusque-là, on s'en est toujours sorti. Donc, on va voir comment ça se passe. Maintenant, mais c'est vrai que muter les enfants quand on n'a pas de place, voilà, ça nous est arrivé de muter, voilà, les jumelles, une à Marseille, l'autre à Montpellier. Enfin,
Ah.
voilà, oui, c'est ça, l'épidémie de bronchiolite, c'est ça, c'est trouver des places de réa, c'est un non-sens, quoi. Tu te dis, mais c'est pas possible, comment vont faire les parents de Marseille à Montpellier? Enfin, c'est inimaginable, et pourtant, on l'a fait, hein, parce qu'il n'y avait pas de place.
Ouais.
Donc, ça se fait. Ça se fait et c'est dramatique d'ailleurs. Donc, moi j'ai signé, je l'ai partagé. J'espère qu'il y a plein de gens qui l'ont. Enfin, je pense que plein de gens l'ont fait aussi parce que
Oui.
c'est dramatique et qu'il faut réagir parce que. Et oui, c'est de vie d'enfant dont on parle.
Exactement. Ben j'espère qu'elle aboutira. J'espère que Racker sera bientôt dans tous les services néonates de France.
Oui, ben voilà.
C'est tout ce que je souhaite à ce bel ouvrage. Donc dans les notes de l'épisode, je mettrai les liens pour se procurer Cœur à Cœur, pour offrir Cœur à Cœur à des hôpitaux, à des associations, à des parents qui sont en train de passer par là,
Oui.
pour leur apporter un peu de soutien et les aider à créer un lien
Voilà.
avec leur petit bébé, donc à ses parents guerriers, donc.
Ouais, c'est ça.
Oui. Et à leurs petits guerriers quand même, parce que ils en prennent des piqûres et des sondes dans tous les sens quand même, ces pauvres petits. Bah, merci beaucoup Estelle, merci de ton temps, merci pour ton ouvrage,
Mais merci à
et
toi.
merci pour tout ce que tu fais pour tous ces petits et tous ces parents que vous accueillez à Avignon.
Merci.
Encore merci à Ophélie pour son témoignage et à Estelle pour le temps qu'elle m'a accordé. Je vous mettrai en note de l'épisode les liens pour vous procurer le cœur à cœur. Vous pouvez le trouver donc sur le site d'Estelle, lecturecœuracœur.fr. Vous pouvez aussi retrouver Estelle sur Instagram sous son nom, Lecture Cœur à Cœur. Si vous êtes soignant que vous souhaitez acquérir pour votre service le livre Cœur à Cœur, ou même si vous êtes juste parent prématuré qui souhaitez offrir au service néonate ou à l'hôpital un exemplaire du livre, n'hésitez pas à contacter Estelle via Instagram ou vous pouvez aussi contacter Histoire de Préma, je me ferai un plaisir de transmettre votre demande. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Histoire de Préma. Si vous aussi vous souhaitez partager votre histoire, n'hésitez pas à m'écrire via les réseaux sociaux ou sur le site www.histoiredeprima.com. Vous pouvez vous abonner au podcast sur Apple et Google Podcast, sur Spotify, Deezer et sur les plateformes dédiées. N'hésitez pas aussi à laisser un avis pour faire connaître le podcast et à donc un jour pour une nouvelle histoire de Préma.